Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. C'est le leader mondial de la santé grand public, né pourtant il y a moins d'un an après la scission de la branche santé grand public du laboratoire GSK, et il s'appelle Elion. Cédric Perry, son président France, nous dit comment il veut rendre les Français plus acteurs de leur santé par le Safe Care. 16 millions de Français souffrent de maladies de peau. La dermatologie est une des spécialités qui a le plus profité des progrès thérapeutiques. Elle est hélas confrontée elle aussi à une pénurie de dermatologues. Gaël Quéreux, président de la Société française de dermatologie, et Marie Bellobary, qui est responsable médicale du fonds de dotation de la SFD, nous expliquent comment les nouvelles technologies et les progrès scientifiques ont révolutionné cette spécialité. Enfin, Check-up Santé s'est déplacé au salon Medintex, qui a eu lieu les 13 et 14 mars au parc floral du bois de Vincennes, et y a rencontré des acteurs du futur de la santé. Check-up santé, c'est parti. Cédric Perry, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes le président France de Elion, ça s'écrit H-A-L-O-N, mais j'espère que les Français vont bien le prononcer, Elion. Elion, c'est la contraction de deux mots, c'est ça?
Oui, c'est Health en anglais, la santé, et Leon, le lion.
Voilà. Donc la force?
La force.
Alors Elion, c'est une très jeune société, c'est bien ça?
Exactement, depuis le 18 juillet 2022, nous sommes une société indépendante au niveau mondial, présente sur différentes catégories de produits. Et en France, on a un quart des Français qui utilisent nos produits au quotidien, toute l'année, dans différents domaines, aussi bien l'hygiène bucco-dentaire, dans un domaine plutôt thérapeutique, avec des dentifrices thérapeutiques, que la partie respiratoire. Ouais. Avec Prorinel.
On va en reparler. Donc, vous êtes présent donc dans de nombreux produits. Vous avez moins d'un an, vous êtes déjà leader mondial de la santé. C'est parce que avec GSK, c'était déjà le leader.
C'était déjà le cas.
Ouais. Alors, ces médicaments grand public que vous distribuez sont en général des produits délivrés sans ordonnance.
Oui, principalement. Ouais. Des produits de prescription médicale facultative et également des dispositifs médicaux.
Voilà. Ouais, il y a souvent un cliché, hein, sans ordonnance, ça veut dire plus ou moins efficace. Vos médicaments sont évidemment
ça reste efficaces. Des médicaments, oui. Et donc bien
ça
sûr
reste de vrais médicaments,
avec une vraie action, avec sur la santé des patients.
Alors donc vous sévissez principalement dans trois domaines thérapeutiques, c'est bien ça?
Oui, alors la santé bucco-dentaire principalement, donc avec des dentifrices thérapeutiques, la partie également douleur, aussi bien en topique que en systémique, et puis la partie respiratoire, avec la décongestion nasale principalement pour les adultes et les bébés et enfants.
Alors, est-ce que les Français sont habitués à acheter des médicaments grand public par rapport aux Européens? Comment ça se passe en Europe?
Moins que dans d'autres pays, mais ça progresse parce que y a un constat assez simple, hein, c'est que de plus en plus les Français veulent, 80% des Français voudraient prendre en charge un peu mieux leur santé eux-mêmes, mais il y a que 20% qui se sentent capables de faire les bons choix. Donc, on sent qu'il y a du travail à faire, mais on est sur la bonne voie.
Alors, vous avez sorti un livre blanc, qui, pour expliquer un petit peu que le self-care pourrait soulager un petit peu le monde de la santé.
Oui, le self-care, avec des mots en français, c'est un peu le concept de la santé préventive. Donc, la prévention, c'est très très important, parce que on traite les pathologies quand elles sont encore bénignes, avant qu'elles se transforment en pathologies beaucoup plus sévères. On veut travailler à deux niveaux, aussi bien auprès des patients directement, mais également, surtout s'appuyer très fortement auprès des pharmaciens et des officines qui sont présentes partout sur le territoire pour aider les patients à prendre en charge leur santé.
Alors, de quelle façon justement d'abord auprès des patients?
Alors auprès des patients, c'est tout simplement par la connaissance de nos produits, la façon dont ils vont être aussi mis à disposition dans un maximum de pharmacies, et puis s'assurer que le pharmacien a les bonnes informations également pour la dispensation de qualité sur nos produits, avec des informations particulièrement importantes.
Donc ça, c'est l'action plutôt vers le pharmacien, c'est ça?
Vers le pharmacien.
Et, oui. Donc vous proposez quoi? Des services? Vous proposez des formations?
Tout à fait. Alors qu'on a des réseaux de délégués. hein, qui visitent aussi bien d'un côté des dentistes et des délégués pharmaceutiques. Et nos délégués pharmaceutiques sont capables de remettre des informations à la bonne dispensation des produits. Je vais prendre un exemple, hein, connaissance de l'arthrose, prise en charge de l'arthrose, comment on doit détecter les cas, comment on doit les traiter. Des cas sur également des cas comptoirs sur les INS, donc sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Donc oui. On remet du matériel aux pharmaciens, on leur explique de manière très simple comment ils peuvent aider les patients à se prendre en charge aussi dans l'officine
quand même. Et puis c'est une véritable logistique, non, pour
oui c'est une vraie logistique, mais pour on pense que c'est super important parce que on sait qu'on manque énormément de médecins en France, hein, il en manque 6000, 50 000 en Europe, c'est pas en train de s'améliorer. Et puis on sait aussi que la population est vieillissante, hein. On va avoir 30% de la population qui aura plus de 65 ans d'ici 2050, et on sait que la prévention au quotidien, c'est très important pour cette population.
D'accord, donc c'est plutôt cette population donc qui vieillit, hein, qui prend de l'âge, qui est plus habitué à acheter, à faire du self-care, de l'auto-soin.
Alors ils sont pas forcément plus à même de le faire, mais on pense qu'il faut commencer au plus jeune âge. C'est-à-dire que voilà, il faut aider les pharmaciens à éduquer aussi les vulgariser l'information aussi médicale de manière la plus simple possible, mais raisonnée et responsable, pour apprendre aussi aux plus jeunes à se prendre en charge, parce que 2050 c'est quand même dans plus de 25 ans. Et donc cette population va vieillir, et plus elle sera informée jeune, plus elle sera à même de prendre en charge sa santé aux différentes étapes de la vie.
Vous avez parlé du lancement d'un indice d'inclusivité dans le domaine de la santé.
Oui, alors l'indice d'inclusivité, c'est on se rend compte que dans beaucoup de pays, l'accès à la santé est pas évident. En France, on est plutôt bien lotis, on dirait, puisque on a accès aussi bien.
Premier pays en termes de reste à charge.
Exactement, ouais. sur la partie financière, mais sur la partie, je dirais, juste accessibilité à la santé, c'est vrai qu'on est sur une tension du système de santé aujourd'hui en France, mais on reste un pays dans lequel on a accès à la médecine de ville, aux pharmaciens juste à côté de chez soi, à quelques minutes, de manière assez bonne. Et donc c'est une étude qu'on a faite au niveau mondial, et on s'engage à développer dans tous les pays du monde cet accès à la santé, sachant qu'on part d'un niveau plus ou moins difficile. La France est plutôt un pays assez avancé dans le domaine.
Alors, on a constaté, hein, depuis une dizaine d'années, une baisse un petit peu des pharmacies, hein, une diminution du nombre de pharmacies en France. Le Covid un petit peu a rebattu les cartes, non ? Dans le bon sens
Oui, en fait, je pense que le Covid a été un vrai révélateur sur la valeur ajoutée que peuvent apporter les pharmaciens en termes de services auprès de la population, et en totale complémentarité de la médecine de ville. L'idée, c'est surtout pas d'opposer pharmacie, pharmaciens et médecins.
Les prescripteurs.
Et je pense que chacun a son rôle à jouer. Nous, on travaille vraiment sur le volet de la prévention, sur l'usage des produits de premier recours, et puis la médecine de ville sera toujours là, bien sûr, pour traiter des pathologies une fois qu'elles sont un peu plus aggravées, on va dire.
Voilà. Ben merci beaucoup Cédric Perry, merci beaucoup et bonne chance à Elion.
Merci beaucoup Fabien.
Merci beaucoup. Alors on va à présent accueillir deux stars de la dermatologie, Gaël Quéreux et Marie Bello-Barry.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Gaël Quéreux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente de la Société française de dermatologie. Vous êtes chef de service de dermatologie, bien sûr, au CHU de Nantes. Marie Bello-Barry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, chef de service au CHU de Bordeaux et vous êtes responsable médical du fonds de dotation de la SFD. Merci déjà d'être sur le plateau parce que vous venez de loin, malgré les difficultés de transport. Alors, je disais en introduction, il y a 16 millions de patients qui souffrent de maladies de peau, une personne sur quatre, quasiment. C'est beaucoup.
Et
il faut beaucoup de dermatos, donc. Et il y a combien de dermatologues en France ?
Actuellement, on est autour de 3002.
Pour 67 millions d'habitants,
C'est un chiffre qui a considérablement diminué au cours des 10 dernières années. On était à 4000 il y a 10 ans, pour vous donner une idée.
Et on sait pourquoi, non, ou pas ?
Parce que c'est beaucoup de départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Il n'y a pas assez de nouveaux postes, il n'y a pas assez d'internes.
Et pourtant, c'est vrai qu'on le voit au classement de l'internat. C'est, j'allais pas dire que c'est bizarre, au contraire, hein, c'est une super spécialité. Pas mieux que la cardio, bien sûr. Mais c'est vrai que ça arrive dans les premiers classements.
C'est une spécialité qui est effectivement très demandée parce qu'elle est très riche.
Ouais.
Mais il n'y a pas assez de postes.
Il n'y a exactement
pas assez de postes. Il y a en gros à peu près 100 postes par an. Alors nous, on essaie de faire pression auprès des différentes administrations pour que ce nombre augmente, parce qu'on est vraiment confronté à ce problème de démographie qui a un retentissement mais considérable maintenant dans la vie des gens.
Est-ce que la place de la médecine esthétique, hein, dans l'activité de dermato, est-ce qu'elle a justement aggraver un petit peu
Alors c'est une bonne question. Bien sûr que la chirurgie, les actes esthétiques font partie de la dermatologie. Après, c'est clairement pas cette activité qui retentit sur le problème démographique. C'est tout à fait autre chose. On sait très bien que la majorité des dermatologues ont une activité assez mineure en esthétique. Et puis aussi, il faut dire que c'est partie intégrante de notre discipline, dans le sens où certaines dermatoses sont très stigmatisantes, affichantes, et ont besoin d'une prise en charge esthétique. Mais pour autant, de nouveau, c'est une activité qui reste mineure, et c'est pas ça le problème démographique actuel.
Alors Marie Bello-Barry, donc vous avez essayé de sonder un petit peu la population par une étude.
Voilà, on a fait une enquête avec la Société française d'dermatologie et son site grand public. Donc son site grand public qui a pour fonction d'informer les patients sur leur maladie de peau. Et on a voulu que ce soit les patients qui nous informent sur leur ressenti, le fardeau de la maladie, connaître quelles étaient les pathologies aussi qui étaient les plus stigmatisantes, dont ils souffraient le plus.
Parce que c'est vrai que par rapport à d'autres maladies comme le diabète, où tout est abstrait un petit peu. Les problèmes dermatologiques sont des problèmes un peu visibles.
Absolument. Donc on a eu 1800 réponses, on a fait ça sur quelques mois, c'était de janvier à mai de l'année dernière. Et on voit que parmi les maladies où les patients ont le plus envie de témoigner, ce sont des maladies inflammatoires chroniques, donc le psoriasis, l'eczéma, l'hydradénite suppurée, qui est une maladie inflammatoire vraiment terrible de la peau, le vitiligo aussi, qui est très affichant, et puis l'acné et la rosacée. Et donc les patients, dans leur vécu, 60% disent qu'ils ont un impact sur leur qualité de vie.
Un impact psy et sociétal.
Qualité de vie en général, et ensuite perte de l'estime de soi, perte de l'image de soi, et puis un impact sur la vie professionnelle, sur la vie sociale. Et donc c'est vrai que ça a un impact aussi économique pour ces patients. Donc un impact très important de ces maladies qui sont considérées comme non mortelles.
Alors Gaëlle Quéreux, on parle de pénurie, est-ce qu'il y a des moyens pour essayer de compenser cette pénurie, peut-être par des délégations de tâches?
Alors, délégation de tâches, oui, pourquoi pas. Je pense qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à reconstruire un parcours cohérent avec différents acteurs. Les infirmières de pratique avancée, les IPA, peuvent être une bonne solution. En onco-dermato, par exemple, ça commence à prendre vraiment sa place. Ça pourrait tout à fait avoir sa place dans les dermatoses inflammatoires. Après, il est également très important qu'on ait des médecins de premier recours. Et là, je pense en particulier aux médecins généralistes.
Bien sûr.
Et nous, SFD, c'est un de nos devoirs de réussir à continuer à les former pour qu'ils soient justement au plus près et capables de faire ça. Et puis, qu'il y ait des actes plus spécialisés.
Marie Bello-Barry, donc, est-ce que les nouvelles technologies permettent aussi de pallier elles ont entraîné des progrès assez conséquents.
Je ne pense pas que ça permette de pallier vraiment, mais c'est une aide, un outil en plus. Alors c'est vrai qu'on parle dans les nouvelles technologies. Je parlerai d'abord de la télémédecine. C'est une nouvelle technologie assez classique, mais pour la télémédecine, c'est vrai que c'est intéressant dans les régions sous-denses notamment. Mais il faut quand même qu'il y ait des dermatologues qui puissent répondre aux questions de dermatologie, de télédermatologie. Donc c'est un outil, mais ça va pas tout solutionner.
C'est pas la panacée, bien sûr.
De la même façon, les techniques d'intelligence artificielle, ça peut être une aide.
C'est la question que j'allais vous poser, ça tombe bien.
Une aide au diagnostic, mais ça va pas non plus remplacer.
Alors évidemment, c'est le médecin qui a toujours la main sur la décision.
C'est plus une aide qu'un remplacement, et pour le moment, c'est pas.
C'est pas une révolution.
Non, c'est
pas encore.
Pour le moment, c'est pas vraiment une révolution. Ouais. En tout cas, pas au quotidien. Ça va pas solutionner les problèmes de santé actuels pour les patients.
Alors, on parle beaucoup des progrès thérapeutiques incroyables en dermatologie. En premier lieu, les maladies inflammatoires.
Alors, je dirais peut-être le cancer cutané, peut-être en premier lieu, où là, vraiment, il y a eu des progrès incroyables dans le mélanome au cours des 10 dernières années, avec des traitements maintenant pour les stades métastatiques, et ces traitements ayant fait leurs preuves, on les place de plus en plus tôt maintenant, on traite les patients plus tôt au stade ganglionnaire pour qu'ils ne deviennent pas métastatiques, et même au stade cutané pour qu'ils ne deviennent pas ganglionnaires. Donc, des vrais progrès. Et puis, effectivement, la deuxième thématique, c'est dermatose inflammatoire, le psoriasis, l'eczéma atopique. Des progrès considérables maintenant pour nos patients, avec des traitements qui vraiment guérissent pendant un temps donné, le temps du traitement, leur maladie. Ils n'ont plus les symptômes, ils revivent normalement. C'est phénoménal.
Vous êtes un peu spécialiste en oncologie dermatologique. On parle des progrès aussi thérapeutiques. Bien sûr qu'on diagnostique peut-être plus facilement, on prend en charge plus rapidement, mais les chimiothérapies, les progrès, les médicaments sont plus efficaces qu'à une époque?
Alors oui, parce qu'en fait, on n'utilise plus tellement les chimiothérapies, en tout cas pour le mélanome, c'est les progrès, soit des thérapies ciblées et surtout de l'immunothérapie qui ont vraiment changé la prise en charge des patients. Alors, on diagnostique plus vite, pas suffisamment vite, et justement ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir cette démographie médicale en péril, fait qu'on a un risque de diagnostic tardif. Et ça, il y a une étude il y a quelques années qui a clairement montré que dans les régions où il y avait moins de dermatologues, les mélanomes étaient diagnostiqués à des stades plus avancés, plus épais. Donc vraiment, l'enjeu, il est là, faire un diagnostic plus précoce pour pouvoir traiter plus précocement et efficacement.
Vous êtes responsable médical du fonds de dotation. Quelle est sa mission ?
Alors, c'est une action qui est fondamentale, une mission fondamentale de la Société française d'hermatologie, c'est de soutenir la recherche. L'année dernière, par exemple, la Société française d'hermatologie, avec son fonds de dotation, a donné 1 million d'euros pour la recherche. C'est pour des équipes de recherche, parfois pour des projets de recherche en dermatologie libérale, et ça, ça fait vraiment avancer la dermatologie. Et le fonds de dotation nous permet d'avoir des partenariats avec... parfois l'appel aux dons du public, mais aussi des partenariats industriels. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous de soutenir la recherche.
Merci beaucoup Gaëlle Quéreux. Merci beaucoup Marie Bello, Marie. On va à présent se transporter au salon Made in Tech.
Julien Chemoul, bonjour. Alors, vous êtes médecin rhumatologue, spécialiste des maladies liées au tic. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans l'innovation en santé ?
Merci pour la question. L'histoire a commencé en 2019 à peu près, un peu avant le Covid. Je travaille dans un centre de référence sur les maladies vectorielles à tiques. C'est un centre de référence pour l'Île-de-France et pour les Hauts-de-France. Et du coup, les patients qui viennent en consultation, on doit les revoir pour leur donner le diagnostic. Et souvent, ils reviennent, donc ils font un long trajet, parfois 2 heures de train, pour venir chez nous et juste pour qu'on leur dise tout va bien. Donc on a commencé à vouloir instaurer la téléconsultation, qui était donc un bon endroit pour le faire. On a commencé à organiser ça, et juste au moment où on allait le mettre en place, il y a le Covid qui arrivait. Donc comme beaucoup de médecins, j'étais dans les premiers, dans les centres Covid, dans les unités Covid. Et là, on s'est dit avec d'autres que c'était le moment un peu idéal pour faire de la téléconsultation, pour pas que nos patients reviennent en boomerang. Et donc on a commencé à instaurer ça, moi j'ai proposé ça à la direction, et en fait ça a mis beaucoup de temps à être accepté, et surtout ce qui s'est passé c'est qu'au moment où on a mis un outil qui était pourtant assez simple, où le prestataire était d'accord pour nous l'offrir, pour le mettre en place tout de suite, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qu'au moment où on a mis la téléconsultation en place, les médecins se sont plaints de ne pas avoir une interopérabilité avec leur logiciel métier, peut-être de la faute aussi à l'infrastructure de base, quoi. Et les ingénieurs du prestataire, eux, nous demandaient de communiquer avec eux via Slack, qui n'est pas du tout un outil adapté pour les médecins finalement, et l'administration dans tout ça qui ne comprenait pas. Donc finalement, quelque chose qui était aussi simple que de la téléconsultation, juste via le fait qu'on avait du mal à communiquer entre nous, n'a pas fonctionné, on n'a pas pu prendre en charge les patients correctement. Donc à partir de là, je m'étais dit que un des vecteurs essentiels à la réussite de l'innovation médicale en France était d'arriver à faire communiquer tous ensemble les patients, les professionnels de santé, les ingénieurs, et d'arriver à avoir le même langage, ce qui est un petit peu l'idée, l'objectif de Made in Tech ici. Je pense réussi, où on a réussi à faire un salon qui allie à la fois des citoyens, à la fois des professionnels de santé, des professionnels de l'écosystème de santé. On se pose ensemble, on réfléchit, on discute et on arrive à créer.
Vous êtes cofondateur de Made in Tech. Est-ce que vous êtes satisfait de la participation de ces 2 jours ?
Pleinement satisfait, par le nombre de personnes, mais surtout la qualité des échanges. On avait fait un pari initial qui était de pouvoir tenir le même langage aux professionnels de santé, aux citoyens, à l'écosystème, d'arriver à les réunir. C'est ce qui se passe. On a créé cette année, entre autres, des villages, qui est un lieu, je crois, assez agréable, accessible, où on arrive à faire des mini-événements, où les gens arrivent à se réunir autour de points d'information, comme sur le village prévention, village cybersécurité ou autre, où on arrive à faire communiquer tout le monde, les conférences qui parlent un petit peu à tout le monde. On a créé un hackathon aussi cette année, qui a extrêmement bien marché, où les étudiants arrivent à se mettre ensemble, étudiants santé, étudiants ingénieurs, et arrivent à concevoir les outils innovants de demain, et puis les ateliers qui fonctionnent très bien. Ce qui est agréable, c'est de voir vraiment le ressenti des gens quand ils sortent et disent en fait, et ça c'est hyper intéressant, ils disent on a réussi à créer des liens auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire quand on vient dans un salon un peu classique, on sait qu'on va avoir tel type de lead, tel type de gens qu'on va rencontrer, et là en fait cet écosystème qui est parfois pas si bien organisé, qui se connaît pas si bien, on a réussi à le fédérer, à le faire se regrouper.
Nicolas Cassoldi, bonjour.
Très bien.
Alors, vous êtes directeur délégué à la Direction Générale de l'Assistance Publique et vous êtes chargé à l'Hôtel Dieu donc de l'innovation digitale.
Oui, l'Hôtel Dieu, c'est le plus ancien hôpital de Paris, sur l'île de la Cité, à côté de Notre-Dame. C'est un hôpital qui est en train de se réinventer, pour devenir à la fois un laboratoire du soin de demain, où on va essayer de suivre les patients différemment, notamment les malades chroniques, et puis un grand lieu d'innovation en santé, avec à la fois un incubateur, des start-up, des projets de partenariat, qui vont venir nourrir cette transformation. Et le but du jeu, c'est d'avoir demain, au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, un endroit absolument merveilleux qui soit l'endroit où on imagine la manière dont demain on prendra en charge les patients avec des objets connectés, des applications. Là, c'est un lieu vivant et rayonnant.
Alors où en êtes-vous justement sur vos projets? Est-ce qu'il y a un projet particulier qui vous passionne?
Nous, on a franchi une première étape importante. On vient d'ouvrir l'incubateur au sein de l'Hôtel Dieu, hein, Biolabs, avec 500 mètres carrés en face de Notre-Dame, avec des startups qui sont arrivées, qui commencent à travailler avec les services de soins. Et puis en parallèle, on avance sur un gros projet qu'on a monté l'année dernière et qui est soutenu par l'État, qui est un projet de co-développement d'outils de télésurveillance entre à la fois l'hôpital d'un côté et 5 startups françaises, Lifun, Nouvea, Implicity, Nabla et Weezings, qui est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il s'agit d'imaginer les outils du suivi à distance de demain en ayant un souci qui est comment est-ce qu'on fait pour qu'un patient qui est à la fois diabétique et cardiaque, c'est un sujet qui vous parlera sans doute, puisse être bien suivi par un même outil, et comment est-ce qu'on s'en sert à la fin, c'est-à-dire comment est-ce que les médecins s'en servent vraiment, comment les infirmières peuvent s'appuyer sur lui, et puis comment les patients peuvent s'en servir à leur tour. Donc on avance plutôt bien, on est soutenu par l'État à hauteur de 17 millions d'euros, et on avance avec les 5 startups, et on espère pouvoir bientôt montrer de premiers résultats.
Alors, on est fiers quand même chez Checkup Santé de dire qu'on a invité vos 5 startups. On est un petit peu dans les murs de l'Hôtel Dieu finalement.
L'histoire elle a en un sens commencé chez vous. On a eu l'occasion de venir parler très tôt du projet. Ça nous a beaucoup aidé et on sera ravis de venir vous tenir au courant de la suite.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup Nicole Cassodi. Frédéric Vacher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes. C'est vrai que quand on pense à Dassault, on ne pense pas spontanément à la santé.
Détrompez-vous, Dassault Systèmes, son deuxième plus gros marché est le marché de la santé. Donc historiquement, effectivement, chez Dassault Systèmes, on accompagne les industriels pour qu'ils créent leurs jumeaux numériques dans 11 industries, dans 140 pays. Donc on pense souvent à l'aéronautique, c'est 100% d'avions civils, militaires, complètement virtualisés avec nos solutions, mais c'est aussi le monde de la mobilité, de l'aménagement d'intérieur, du packaging, de l'énergie, etc. La santé, historiquement, nous avions les fabricants d'équipements qui conçoivent leurs équipements avec nos solutions logicielles, notamment SolidWorks et Catien. Puis, par extension, on a investi depuis une dizaine d'années sur la modélisation à l'échelle moléculaire pour faire finalement ce qu'on a fait avec succès dans la santé pour des produits complexes, mais pour une molécule, pour un médicament, un vaccin. Donc de l'invention jusqu'à la modélisation, certification, jusqu'aux tests cliniques qui se font maintenant sur des plateformes numériques Dassault Systèmes.
Alors, vous êtes ici au salon Made in Tech pour présenter votre programme Vortex.
Oui, donc Vortex est un des programmes portés par le 3D Experience Lab. Le 3D Experience Lab est le programme d'innovation ouverte de Dassault Systèmes qui accélère des projets en innovation de rupture qui ont un fort impact sur la société. Donc on monite les grands enjeux des Nations Unies et on cherche à identifier et accélérer des projets qui vont vraiment apporter des réponses à nos grands défis. La santé en est un. Vortex est un projet qui permet à un patient qui va avoir un traitement de radiothérapie de vivre son traitement dans le monde numérique en réalité virtuelle, afin de bien le comprendre, de pouvoir visiter la salle, comprendre les différents équipements, les sons, les bruits, jusqu'au protocole. Et l'objectif, c'est de déstresser le patient pour que lors du vrai traitement, il ne bouge absolument pas et que le traitement se passe au mieux.
Si j'ai bien compris, le futur est déjà là.
Le futur est déjà là. Le centre de simulation est déjà installé au sein de l'hôpital Hartmann, avec lequel on est en partenariat sur ce projet, qui permet à chaque patient de vivre finalement cette expérience qui va au-delà de la réalité virtuelle. On parle du jumeau numérique du robot, du CyberKnife d'Accuray, de son fonctionnement, du protocole dans le jumeau numérique de la salle telle qu'elle est à l'hôpital.
Lucas Thierry, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors donc vous êtes passé par l'ESSEC. Vous êtes cofondateur de DMH et le cofondateur de Made in Tech. Alors, rappelez-nous déjà le principe, la définition de MDH et sa mission, surtout.
Le Digital Medical Hub, c'est une spin-off de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris qui a pour vocation à accompagner des start-up, à leur permettre de comprendre le marché et surtout de pouvoir y rentrer dans le marché hospitalier. Parce que le secteur de la santé, c'est un secteur très particulier et il faut pouvoir appréhender l'ensemble des éléments pour pouvoir favoriser la mise sur le marché de nos produits en France pour les patients et pour les soignants.
Quelle est votre cible qui sont vos clients?
Nos clients, en grande partie, c'est des entrepreneurs français, des start-up, des scale-up, et quelques gros industriels de la big pharma ou de la tech qui ont aussi besoin de comprendre ces enjeux qui sont nouveaux, qui sont en permanence en évolution. Donc au final, on a une clientèle qui est quand même assez diversifiée, même si elle est représentée en majorité par des startups.
Donc à partir du DMH, vous avez donc initié le HIT, le HIT.
Exactement. Donc le programme HIT, c'est un programme qui a été monté en collaboration entre la French Tech Grand Paris et le Digital Medical Hub, qui est parrainé par Clara Chapaz et Nicolas Castoldi. Le but de ce programme, c'est quoi ? C'est de permettre à des fleurons français, à des jeunes pousses françaises, de bénéficier de l'expérience de personnes qui ont déjà entrepris, qui ont raté, qui ont réussi, mais qui vont pouvoir partager leur expérience parce que c'est cette expérience qui va nourrir ces jeunes pousses. Ce qu'on aime bien dire chez HIT, c'est que c'est des bonnes fées qui veillent sur l'écosystème et qui le font grandir.
Vous êtes une des fées.
Exactement. Je ne sais pas si je suis une des fées, mais en tout cas, je mets en lumière plein de fées qui vont pouvoir venir partager leur expérience.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Thierry Lucas, merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.